Negli ultimi anni abbiamo visto una deriva autoritaria delle democrazie occidentali che va di pari passo con l'uso della polizia come strumento di governo dei territori e dei conflitti sociali. In questo senso il governo Macron ci sembra paradigmatico, come si è dato nel tempo questo processo in Francia.
Oui, bonjour. Alors, concernant votre première dérive autoritaire des démocraties occidentales, bon, en fait, si on l'analyse sur le temps long et de manière globale, on a face à des puissances impérialistes qui mettent en scène un spectacle démocratique qui performe la démocratie, mais qui sont en fait une forme de dictature de la bourgeoisie et des classes dominantes. Et leur fonctionnement autoritaire, il est là depuis l'origine. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où l'État-nation, le capitalisme, l'ordre racial et le patriarcat n'auraient pas fonctionné ensemble et n'auraient pas été connectés à une police violente.
Per quanto riguarda la deriva autoritaria delle democrazie occidentali, beh, in effetti se la analizziamo nel corso del tempo e da un punto di vista generale ci troviamo di fronte a potenze imperialiste che mettono in scena uno spettacolo democratico, esibendo una democrazia che in realtà rappresenta una forma di dittatura della borghesia e delle classi dominanti, con un funzionamento autoritario presente fin dalle origini. Non c'è mai stato un momento in cui lo Stato-nazione, il capitalismo, l'ordine razziale, il patriarcato non abbiano agito di concerto e non si siano avvalsi di una polizia violenta.
L'histoire de la police, c'est l'histoire de la distribution de la violence dont les classes dominantes ont besoin pour maintenir un ordre social inégalitaire. Et donc je crois pas qu'il y ait une dérive, je crois qu'il y a la continuité d'un système. Mais il y a aussi la maximisation de certaines dynamiques. Et donc on est dans une séquence néolibérale et sécuritaire de l'impérialisme, où il y a un enjeu absolu pour le système économique et politique, qui est de faire en permanence remonter les taux de profit, maximiser l'accumulation du capital, mais aussi optimiser la concentration du pouvoir. Réduire les coûts de production du contrôle. Parce que une société toujours plus inégalitaire, avec toujours plus de pillages, des richesses, toujours plus d'exploitation, de domination, ça fait face à toujours plus de révoltes, et parce que les dominés réorganisent en permanence leur résistance, reconstituent des manières de se défendre, et puis des manières de ressurgir. Et donc ça coûte toujours de plus en plus cher au pouvoir de contrôler, surveiller et réprimer les dominés. Pas tant qu'on traînera dans ces artères. Pas tant qu'on traînera dans ces artères.
J'arrive en Burkini dans une soirée nudiste. Je suis le maillot de Paris sur le dos d'un sudiste. La storia della polizia è la storia della distribuzione della violenza di cui le classi dominanti hanno bisogno al fine di mantenere l'ordine sociale e l'egualitario. Pertanto non credo si tratti di una deriva, credo piuttosto che si assista alla continuità di un sistema insieme alla massimizzazione di certe dinamiche. Ci troviamo quindi davanti ad uno sviluppo neoliberale e securitario dell'imperialismo, con una posta in gioco assoluta per il sistema economico e politico vigente, ovvero la sfida di aumentare costantemente i tassi di profitto e massimizzare l'accumulo di capitale, ma anche di ottimizzare la concentrazione del potere, di ridurre i costi di produzione del controllo, perché una società sempre più iniqua, in cui ci siano sempre maggiori saccheggi di risorse e ricchezze, sempre più sfruttamento e dominazione, si deve conseguentemente confrontare con rivolte sempre maggiori e più frequenti. Gli oppressi infatti riorganizzano costantemente la loro resistenza, ricostituendo le forme di difesa e la possibilità di emergere. Pertanto, per i poteri forti è sempre più dispendioso controllare, monitorare e reprimere i dominanti. Je suis du 9-5 à Paris. On stoppera pas les morages,
bon lieu zade, même avec l'oseille des Qataris. Ouais, l'ancien fait de la place, j'étais en pharmace là. Et encore une fois, je crois pas que ce soit une dérive, mais plutôt que si on regarde l'histoire globale, du capitalisme et de l'impérialisme, en fait, et qu'on le regarde depuis le sud global, depuis les dominés, depuis les colonisés, depuis les surexploités, en fait, il n'y a pas de moment où, où le pouvoir n'utilise pas la guerre, la mise à mort, l'écrasement, la mutilation contre les damnés de la terre. En fait, c'est plutôt l'inverse. La séparation de la police et de l'armée, du temps de paix et du temps de guerre, tout ça, ça concerne une partie de la population, celle qui est considérée comme non sacrifiable. Et en l'occurrence, bah, soit les classes moyennes, blanches, ou les parties du mouvement ouvrier autodisciplinées, bureaucratisées. En fait, tout ce qui à la fois ne menace pas le pouvoir, mais aussi tout ce qui est considéré comme légitime. Et donc, en fait, on a plutôt, dans la séquence actuelle, néolibérale et sécuritaire, une extension de la manière de gérer les périphéries. Et cette manière de gérer, c'est la férocité. La férocité, c'est la normalité dans la gestion historique des colonies, des prisons, des frontières et des quartiers pauvres. Et c'est cette logique de férocité qui est en train de monter en puissance dans les centres à mesure que la précarisation s'étend, mais aussi à mesure que la ségrégation socio-raciale doit être renforcée parce que des mouvements antiracistes montent en puissance, et aussi à mesure et le renforcement et pour renforcer aussi le patriarcat à mesure que le mouvement féministe se renforce lui aussi. Je tiens le gouvernail, c'est pas de la punchline, c'est de la joue verbale. Je suis venu vous faire mal, je crois que j'ai besoin d'une couverture sociale. Je crois que t'as besoin d'une ouverture sociale.
Ancora una volta, non credo si tratti di una deriva, ma piuttosto se guardiamo la storia globale del capitalismo e dell'imperialismo e la osserviamo dal punto di vista del sud globale, ovvero dal punto di vista dei dominati, dei colonizzati, degli sfruttati, in realtà non c'è un solo momento in cui il potere abbia potuto prescindere dalla guerra, dall'uccisione, dalle forme di schiacciamento e di mutilazione contro i dannati della terra. Anzi, è proprio il contrario, in virtù della separazione tra polizia ed esercito, della distinzione tra tempo di pace e tempo di guerra. Tutto ciò concerne una specifica parte della popolazione, quella considerata non sacrificabile, nello specifico la classe media bianca o le parti autodisciplinate del movimento operaio, burocratizzate, ovvero tutte quelle parti sociali che da un lato minacciano il potere, ma dall'altro possono anche essere considerate legittime. Pertanto, ciò che in realtà abbiamo nell'attuale processo liberale e securitario è piuttosto uno sviluppo del modo di gestire le periferie, e questo modo di gestire è la ferocia. La ferocia è la normalità della gestione storica delle colonie, delle prigioni, dei confini e dei quartieri poveri. Ed è questa logica la ferocia che sta prendendo vigore in centri, parallelamente alla precarietà che si diffonde, ma anche in relazione alla segregazione socio-razziale che viene progressivamente rafforzata in risposta al movimento antirazzista, sempre più forte. Similmente assistiamo ad un ulteriore rafforzamento del patriarcato in relazione alla crescita del movimento femminista. On tape sur scène, on n'est pas les mêmes faux. Pas le même génie, pas le même flow. On n'a pas le même zénith, pas le même show. J'en ai rien à battre, je viens casser le coffre. Je gagne au tribunal, c'est un cas d'école. Ton avocat est pif, ton avocat est vif. Mais mon avocat est juif, mazel tov. C'est nous le grand Paris, c'est nous le grand taif. Et tous les ghetto youth font les fous quand taif. Se da un lato nelle rivolte delle scorse settimane, partite da Nanterre e deflagrate in tutto il paese, abbiamo visto attaccare la polizia, i simboli dello Stato e via più passi delle merci, dall'altro lato non ci sembra che ci siano state le rivendicazioni esplicite nei confronti della controparte. Siamo noi che non le abbiamo colte, oppure le rivolte sono irriducibili a qualsiasi volontà di mediazione e quindi intervento riformatore e non meramente repressivo da parte dello Stato?
pas de revendication explicite. Il y a le nom de Naël qui est écrit sur les murs un peu partout. Et puis les sites qui sont ciblés par les contre-attaques populaires, c'était des mairies, des préfectures, des commissariats, aussi des supermarchés qui ont été pillés par des gens qui disent qu'ils ont pris des fruits parce qu'ils n'avaient pas mangé de fruits depuis un an. Vraiment, il y a des vols de misère. Et puis il y a aussi eu des enseignes de luxe qui ont été attaquées. Et donc là aussi, des gens qui veulent aller se servir de ce qu'ils ont envie, qu'ils n'avaient jamais pu se payer. Et donc, c'est un mouvement qui est profondément politique, qui est aussi économique. E non c'è molto da sapere, se la vita è mia lascio che sia,
cane contro cane quando il cane della polizia. Non c'è stata una rivendicazione esplicita, bensì c'è stato il nome di Nael scritto sui muri dappertutto e poi ci sono luoghi specifici presi di mira dai contrattacchi popolari, si tratta di municipi, prefetture, commissariati, ci sono stati anche dei supermercati saccheggiati da persone che rivendicavano il furto della frutta perché non ne mangiavano da più di un anno. Si è trattato veramente di furti dettati alla miseria. E poi è anche accaduto che alcune insegne di marchi di lusso siano state attaccate e quindi ancora una volta si trattava di persone che volessero prendersi ciò che desideravano, non avendo mai potuto permetterselo. Si tratta quindi di un movimento profondamente politico, nonché economico.
Qui est un mouvement qui est lié à l'ordre racial aussi, qui est un mouvement de contestation de la ségrégation socio-raciale avec des groupes qui essayent d'aller dans les centres-villes ou en tout cas qui, comme dans toute l'histoire des révoltes des quartiers populaires, tentent d'amener la police sur des terrains où elle puisse la mettre en difficulté. Et donc c'est aussi beaucoup des confrontations avec la police. Et tout ça, il semblerait qu'il n'y ait pas besoin d'autres revendications que celle d'un cri et d'une colère pour arracher un droit à vivre déjà, et un droit à vivre dans l'égalité, un droit à vivre dans la dignité. Et c'est comme si, en fait, le droit à vivre dans la dignité, on ne peut pas le revendiquer. Il y a quelque chose de profondément absurde. Si on est face à un système de pouvoir qui nous tue, ça ne sert à rien de lui réclamer des choses, de lui demander des choses. Il faut la seule possibilité pour le droit à vivre et à vivre dans la dignité, c'est de l'arracher. Et les révoltes des quartiers populaires, c'est des moments de rupture qui sont remplis de colère, peut-être d'espoir aussi. À des moments, mais qui sont aussi des manières d'empêcher le système de fonctionner en disant à un moment, si vous nous tuez, nous, on attaque tout ce qui représente ce système et on ne va pas laisser faire. Et en fait, il n'y a pas d'autre revendication que celle-là, que de dire non, c'est pas possible de nous tuer sans rien faire. Et on peut pas vous laisser nous tuer sans attaquer cette société.
Movimento legato all'ordine razziale e anche un movimento di contestazione della segregazione socio-razziale, con gruppi che cercano di entrare nei centri cittadini o in ogni caso, come in tutta la storia delle rivolte nei quartieri popolari, gruppi che cercano di portare la polizia su un terreno in cui siano in grado di metterla in difficoltà. E quindi ci sono anche molti scontri con la polizia e tutto ciò non sembrerebbe muovere altre rivendicazioni se non quelle di un urlo o di una rabbia a volte a strappare il diritto di poter vivere innanzitutto e di poter vivere nell'uguaglianza e nella dignità. In realtà il diritto di vivere nella dignità non è possibile rivendicarlo, c'è qualcosa di profondamente assurdo in questo. Se ci dobbiamo confrontare con un sistema di potere che ci uccide, non ha alcun senso porre delle rivendicazioni, non è possibile pretendere nulla da questo sistema. La sola possibilità di ottenere il diritto di vivere, ovvero il diritto di vivere dignitosamente, è di strapparlo al sistema. e le rivolte nei quartieri popolari sono dei momenti di rottura che possono essere sostanziati di rabbia e forse anche di speranza, ma tali momenti sono anche modi per impedire al sistema di funzionare, dicendo: beh, se voi ci uccidete, noi attacchiamo tutti coloro i quali rappresentano questo sistema e non staremo fermi a guardare. E in effetti non ci sono altre rivendicazioni al di fuori di questa, come a dire: no, non è possibile ucciderci senza che noi facciamo nulla, non possiamo permettervi di ucciderci senza di controattaccare questa società.
Après, dans ce mouvement, il n'y a pas que les révoltes, il y a aussi, et puis il n'y a pas que les générations les plus jeunes qui sont confrontées avec la police, mais il y a une colère et un vent de révolte qui est beaucoup plus large. Et il y a aussi, du coup, beaucoup d'associations de quartier, celles qui restent encore, qui n'ont pas été soit dissoutes comme les associations musulmanes, soit dont les capacités économiques ont été cassées parce qu'elles seraient trop autonomes et qu'elles ne collaboreraient pas avec le pouvoir politique. Bon, ces assos, toutes sortes de collectifs, les comités vérité et justice, proches de familles, des familles et les proches de personnes tuées par la police, tuées par la prison, tuées par les frontières, tous ces gens-là se sont bougés beaucoup aussi et là ont formulé des revendications comme l'interdiction de certaines lois, la dissolution de certaines unités, le définancement de la police, des fois l'abolition de la police, là des revendications qui sont plus claires. Et puis il y a aussi des groupes révolutionnaires qui disent qu'il faut changer complètement de société et y a un peu tout ça dans ce mouvement. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement aussi intergénérationnel, où les différentes générations d'habitants des quartiers populaires se transmettent des choses, et puis les différentes générations militantes se transmettent des choses sur l'histoire des luttes, sur l'histoire de l'oppression, et où ça discute beaucoup sur les racines de l'inégalité, les racines des violences d'État, les racines de l'ordre racial. Et ça en discute avec l'idée qu'il faut réussir à s'organiser pour mettre fin à tout ça. Et ben ça, c'est aussi des choses qui sont en train de germer comme pendant chaque révolte, pendant chaque mouvement social, et qui vont ouvrir des chemins, qui vont ouvrir des pistes aussi pour la suite face au processus de fascisation qui lui est très clair. Cosa succederà? In questo movimento, tra l'altro, non ci sono solo le rivolte, soprattutto non solo le generazioni più giovani hanno affrontato la polizia, bensì esistono una rabbia e un piano di rivolta assai più ampi, che coinvolgono associazioni di quartiere, quelle che ancora resistono e che non siano state sciolte, come è accaduto alle associazioni musulmane o a quelle le cui capacità economiche siano state compromesse perché eccessivamente autonome e non collaboranti con il potere politico. Ebbene, queste associazioni, tutti i tipi di collettivi, i comitati per la verità e la giustizia, vicini alle famiglie, ai cari delle persone uccise dalla polizia, dalle prigioni o dalle frontiere, ecco, tutte queste soggettività si sono molto attivate sino a formulare alcune rivendicazioni che potessero riguardare la proposta di abrogare alcune leggi specifiche. La richiesta di scioglimento di certe unità, il definanziamento della polizia, arrivando a volte addirittura a pretendere lo scioglimento della polizia stessa e altre rivendicazioni più precise. Vi sono anche gruppi rivoluzionari che perseguono un cambiamento strutturale della società. Ecco, il movimento è composto da tutto questo ed è forse questo l'aspetto interessante.
ovvero il fatto che si tratti di un movimento intergenerazionale in cui le diverse generazioni di abitanti dei quartieri popolari si trasmettono i saperi, così come le diverse generazioni di militanti si trasmettono nozioni sulla storia delle lotte, sulla storia dell'oppressione e in cui si discute molto sulle radici della disuguaglianza, sulle radici della violenza di Stato, sulle radici dell'ordine razziale e tutto ciò sempre con l'idea che bisogna riuscire ad organizzarsi per porre fine a tale processo. Bene, questi sono aspetti che stanno germogliando come in ogni rivolta e in ogni movimento sociale e che apriranno dei cammini, ovvero dei percorsi per il prosieguo delle lotte, in opposizione al processo di fascistizzazione in corso, quello sì, molto chiaro. Secondo questo flusso di ragionamento non ci stupisce che le milizie fasciste abbiano assunto un ruolo quasi paramilitare contro le rivolte, facendo emergere con più chiarezza le diverse parti in campo in una dinamica che assomiglia ad una guerra civile. Quale legame c'è tra la polizia e le organizzazioni neofasciste?
Et pour la dernière question, oui, dans plusieurs villes, il y a des groupes fascistes, néofascistes, qui sont sortis pour tabasser des Noirs et des Arabes, tout ce qui pour eux représente l'anti-France. Et à certains endroits, ils ont arrêté des personnes pour les remettre à la police, par exemple comme à Lorient. À Lorient, notamment, il y avait des militaires parmi eux. Voilà. Après, en vérité, c'est pas tellement une surprise. C'est assez nouveau, mais ça s'inscrit dans un processus long qu'on observe depuis un moment de montée en puissance des groupes fascistes dans la rue, mais aussi montée en puissance d'une politique de fascisation au niveau étatique et donc notamment concernant les exilés mais aussi la question de l'enfermement, la question de la répression et en fait il faut voir qu'il y a en fait en permanence dans la société capitaliste, raciste, patriarcale un chevauchement, une consanguinité de la police, de l'armée et de l'extrême droite. C'est pas seulement... Alors, la police vote en France à plus de 70% pour le Rassemblement National. Si on ajoute les autres partis de droite et d'extrême droite, ça doit être 80-90% de la police, et puis le reste de la police, de toute façon, est aussi réactionnaire. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayé comme le maillot de l'Argentine. Mourad c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres.
È vero che in diverse città operano gruppi fascisti o neofascisti che compiono ronde per massacrare di botte neri, arabi, ovvero tutti coloro che per loro rappresentano l'anti-Francia. In alcune occasioni hanno addirittura fermato delle persone per poi consegnarle alla polizia. Per esempio a Lorient, dove tra l'altro in questi gruppi è stata acclarata la presenza dei militari. Dopodiché, in realtà, tutto ciò non rappresenta una vera e propria sorpresa, sebbene si tratti di un fenomeno abbastanza nuovo che tuttavia si iscrive in un lungo processo che stiamo osservando da tempo, relativo tanto alla crescita di formazioni e gruppi fascisti nelle strade, quanto all'ascesa di una politica di fascistizzazione a livello statale, in particolare nei riguardi degli esiliati, ovvero circa le questioni dell'incarcerazione e della repressione. In effetti è opportuno ribadire che nella società capitalista, razzista e patriarcale c'è una sovrapposizione permanente, una consanguineità tra la polizia. L'esercito vota per oltre il 70% il Rassemblement National, se poi si aggiungono gli altri partiti di destra e di estrema destra si raggiungono tassi dell'80-90% della polizia e tra l'altro anche la restante parte è sostanzialmente reazionaria.
Mais il y a historiquement, à toutes les époques, une conjugaison et un entrelacement des forces fascistes comme si elles servaient de réserve comme si l'État et les classes dominantes entretenaient l'extrême droite comme un réservoir d'idées, de pratiques, de réseaux, une sorte de mal à outils, mais aussi de personnel, de cadre dans lesquels elle va puiser pour résoudre les crises, en tout cas pour leur donner du pouvoir quand le système fait face à soit à des révoltes larges, soit à des crises d'accumulation. Et en fait, du coup, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a il y a un processus long où on a des structures de fascisation qui sont au cœur de l'impérialisme, dans la politique coloniale, dans la politique raciale, dans la ségrégation, dans les prisons, dans les frontières, etc., et qui font exister une espèce de forme de fascisme normalisé et qui, lui, prépare l'avènement d'un fascisme de contre-révolution qui, lui, est mis en place pendant les grandes périodes de crise, comme ça a pu être le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais où on voit dans ces manières, dans ce fascisme de contre-révolution, toute une série de mécaniques d'écrasement, de répression, de mise à mort, qui en fait trouve ses racines dans les politiques coloniales, dans les politiques d'enfermement, dans les politiques des frontières, et finalement dans la normalité impérialiste.
Ma storicamente è sempre esistita una congiunzione, una sorta di intreccio tra gli apparati statali e le forze fasciste, come se queste fungessero da riserva, ovvero come se lo Stato e le classi dominanti considerassero l'estrema destra un serbatoio di idee, di pratiche, di relazioni, una sorta di strumento, ma anche un serbatoio di personale e di quadri dirigenziali da cui attingere, utili a risolvere le crisi o quantomeno a rafforzarsi quando il sistema debba affrontare tanto dei fenomeni di rivolta larghi quanto delle crisi di accumulazione. E pertanto quello che deve essere sottolineato è che siamo davanti ad un processo di lungo corso in cui operano delle strutture di fascistizzazione che sono al cuore dell'imperialismo, declinandosi nelle politiche coloniali, nelle politiche razziali, nella segregazione, nelle prigioni, nelle frontiere, e che in sostanza hanno una sorta di fascismo normalizzato funzionale all'avvento di un fascismo controrivoluzionario che a sua volta si instauri nei periodi di grande crisi sistemica, come è stata ad esempio la Seconda Guerra Mondiale, e che comunque appare sempre connotato da una serie di meccanismi inerenti alle forme di oppressione, di schiacciamento, di eliminazione, le quali di fatto affondano le proprie radici nelle politiche coloniali, nelle politiche di confinamento, nelle politiche di frontiera e in ultima analisi nella normalità imperialista.